Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du mardi 1er novembre 2022. Avec vous, Eric Manirakiza. Voici d'abord le sommaire. Au Burkina, le ministre de la Défense invite la population à rejoindre la lutte armée contre le terrorisme. En RDC, l'ONU exfiltre des journalistes congolais des villes passées sous contrôle du M23.
Dans la zone où je suis, c'est carrément sous contrôle du M23.
En Somalie, Washington prend des sanctions contre le groupe État islamique. Les dirigeants arabes tiennent en Algérie leur premier sommet en 3 ans. Les Israéliens votent mardi pour les 5e législatives en moins de 4 ans. L'issue du scrutin est incertaine. À suivre dans l'actualité économique, la Libye veut augmenter sa production pétrolière à 2 millions de barils par jour d'ici 3 à 5 ans. Et sur le plan sportif, la dernière journée de la Ligue des Champions en Europe, face de groupe aujourd'hui et demain. Mais d'abord, le journal. Le ministre de la Défense du Burkina Faso, le colonel-major Kassoum Koulibaly, a estimé mardi que la lutte contre les djihadistes qui ensanglantent son pays depuis 2015 était une guerre pour la survie de la nation, invitant ses concitoyens à aller sur le terrain de combat. Le ministre s'exprimait lors d'une cérémonie pour la célébration du 72e anniversaire de la création des Forces armées nationales du Burkina Faso autour du thème « Forces armées nationales et population, synergie pour la reconquête du territoire national ». Mercredi, l'état-major a lancé le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie VTP, des supplétifs civils qui doivent venir renforcer les rangs de l'armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En RDC, des journalistes congolais ont été exfiltrés par l'ONU des villes passées sous contrôle du groupe armé M23 dans l'est du pays, où ils étaient menacés, a-t-on appris mardi, de sources onusiennes et gouvernementales. Le point avec Rosine Monezero.
La mission des Nations Unies en RDC, MONUSCO, a évacué par hélicoptère 12 journalistes de Rutshuru vers Goma ce lundi à la suite de la détérioration de la situation sécuritaire, a indiqué l'organisation sur Twitter, photo à l'appui. 12 autres journalistes du territoire de Rutshuru devraient être évacués mardi par la MONUSCO de Kiwanja vers Goma, a-t-elle ajouté. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a indiqué avoir parlé à plusieurs journalistes bloqués à Kiwanja et qui ont éteint leurs médias, ayant été pris pour cible par le M23. Sur une vingtaine de journalistes, on a réussi à en ramener sur Goma une douzaine, a-t-il assuré, ajoutant qu'il continue à suivre la situation avec la MONUSCO pour être sûr que les journalistes soient en sécurité et continuent à faire leur travail. Après des semaines d'accalmie, les combats opposant les forces armées congolaises aux rebelles du M23 ont repris le 20 octobre. Samedi, les rebelles ont capturé les villes de Kiwanja et Rutshuru Centre, situées sur la route nationale 2, axe stratégique desservant Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. En juin, le M23 s'était emparé de la cité de Bunagana, à la frontière ougandaise.
Le pape François a annoncé mardi qu'il avait l'intention de se rendre début février 2023 en RDC et au Soudan du Sud, un voyage qu'il avait dû reporter en raison de douleurs au genou. Le médecin m'en avait interdit. Aujourd'hui, j'arrive à marcher avec une canne, mais j'y arrive, a déclaré François lors d'une rencontre en visioconférence avec des étudiants africains. Le Vatican avait annoncé le 10 juin le report de son voyage et ravivant les inquiétudes sur l'état de santé du pape de 85 ans qui se déplace désormais en fauteuil roulant. Sanctions américaines contre le groupe État islamique en Somalie. Washington accuse le groupe de faire partie d'un réseau terroriste de trafic d'armes en Afrique de l'Est. Les précisions de Nani Tetalani.
L'annonce mardi du département du Trésor américain cible plusieurs personnes accusées de livrer des armes aux insurgés somaliens d'Al-Shabaab ou d'appartenir à ce groupe. Le groupe État islamique, qui est lié à Al-Qaïda, a revendiqué la responsabilité du double attentat à la voiture piégée de samedi devant le ministère somalien de l'éducation à Mogadiscio. Ces attaques, qui ont fait au moins 120 morts, sont les plus meurtrières en Somalie depuis l'attentat au camion piégé qui avait fait plus de 500 morts au même endroit il y a 5 ans. Washington cherche à intensifier ses efforts en vue d'exposer et perturber les réseaux financiers terroristes d'Afrique de l'Est, a expliqué un responsable du Trésor américain, ajoutant que d'autres actions seront initiées dans les semaines et mois à venir. Parmi les personnes ciblées par les États-Unis ce mardi figurent Abdirahman Mohamed Omar, présenté comme un membre actif du groupe État islamique impliqué depuis 2020 dans un trafic d'armes dans le Puntland en Somalie. Également visé, Abdirahman Faye Issé Mahmoud, un émir somalien du groupe État islamique.
Les dirigeants arabes tiennent ce mardi en Algérie leur premier sommet en 3 ans sur fond de division sur les conflits qui agitent la région. Il s'agit entre autres de la Syrie et la Libye et le rapprochement de certains États avec Israël. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'Algérie a placé ce 31e sommet de la Ligue arabe sous le signe du rassemblement, mais plusieurs pays, surtout du Golfe, n'y sont pas représentés par leurs chefs d'État. C'est le cas du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, officiellement absent en raison d'un problème de santé. Les dirigeants du Maroc, des Émirats et de Bahreïn sont également absents. L'émir du Qatar, Tamine Ben Ahmad Al Thani, le président palestinien Mahmoud Abbas et ses homologues tunisiens Kais Saïd et égyptien Abdel Fattah Al-Sisi assistent en revanche au sommet. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, y assiste aussi en tant qu'invité d'honneur. La Ligue arabe regroupe 22 pays qui ont historiquement placé le soutien à la cause palestinienne en tête de son agenda. Ils s'étaient réunis pour la dernière fois à un tel niveau en mars 2019 à Tunis. Depuis, plusieurs membres de ce bloc ont opéré un rapprochement avec l'État hébreu. C'est le cas des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc et du Soudan. Le conflit israélo-palestinien et la situation en Syrie, en Libye et au Yémen figurent à l'ordre du jour.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden se rend ce mardi en Floride pour donner un dernier coup de collier dans la difficile campagne du Parti démocrate à une semaine des élections législatives de mi-mandat du 8 novembre. Le président américain essaie de s'opposer en défenseur de la classe moyenne face à une opposition républicaine, selon lui, acquise à la cause des plus riches. Il a prévu cette fois de parler de la santé, des prestations sociales et des retraités. Des millions d'Américains perdraient leur assistance santé et des prestations sociales en cas de congrès républicain, affirme la Maison-Blanche dans un communiqué. Les Israéliens votent ce mardi pour les 5e législatives en moins de 4 ans et dont l'issue tient le pays en suspense. Plus de détails avec Claire Morisbourg.
Deux camps, représentés par une quarantaine de listes, s'affrontent pour ce scrutin proportionnel. L'un est favorable à un retour au pouvoir de la droite avec Benjamin Netanyahou, jugé pour corruption. L'autre veut maintenir au pouvoir une jeune coalition hétéroclite menée par Yair Lapid. Les derniers sondages créditent le bloc de droite de Netanyahou de 60 sièges à un seul du seuil de la majorité contre 56 pour Yair Lapid et ses alliés. Les partis arabes sont restés divisés et cela pourrait favoriser la victoire du camp Netanyahou et de ses alliés. Ce scrutin intervient dans un climat de regain de violence en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, où les forces israéliennes ont multiplié leurs opérations ces derniers mois dans la foulée d'attaques anti-israéliennes meurtrières.
Le jeune rappeur américain Takeoff, membre du groupe Migos, a été tué par balle mardi matin dans un club de bowling de Houston, au Texas. À l'âge de 28 ans, l'artiste passait la soirée avec l'un des membres de son groupe. Le gouvernement britannique envisage des options plus radicales face à l'afflux de migrants qui traversent illégalement la Manche et qui débordent les capacités d'accueil actuellement en place, a déclaré mardi le secrétaire d'État à l'immigration. L'approvisionnement en eau et en électricité a été rétabli mardi dans la capitale ukrainienne, Kiev, au lendemain de bombardements russes sur des infrastructures essentielles qui avaient provoqué des coupures massives. Des coupures d'électricité programmées vont toutefois continuer dans la capitale car le déficit du système électrique pousse les autorités à instaurer des restrictions par endroit. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce soir par Mohamedou Oumfa.
La Libye veut augmenter sa production pétrolière à 2 millions de barils par jour d'ici 3 à 5 ans, a fait savoir le patron de la Compagnie nationale de pétrole qui participe à un salon international sur le pétrole aux Émirats arabes unis. Un quasi doublement par rapport au niveau actuel de 1,2 million de barils par jour. Environ 4 millions de dollars seront nécessaires pour investir dans la modernisation des infrastructures pétrolières selon lui. L'Union européenne a annoncé dimanche 30 octobre le décaissement de 23 millions d'euros en faveur de l'Égypte pour aider les gardes-côtes et les gardes-frontières locaux à réduire l'immigration irrégulière et le trafic d'êtres humains. Le financement servira à acquérir des équipements de surveillance des frontières tels que des navires de recherche et de sauvetage, des caméras thermiques et des systèmes de positionnement par satellite. La Banque d'Algérie a émis lundi deux nouveaux billets de banque de 2000 dinars et une nouvelle pièce de monnaie de 50 dinars selon des règlements publiés au journal officiel et signés par le gouverneur de la banque. Les deux billets commémorent les 60 ans d'indépendance de l'Algérie et la pièce porte l'effigie de l'héroïne de la guerre d'Algérie, Assiba Ben Bouali.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouedraogo, avec vous ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On connaît les oppositions des barrages de la Coupe CAF.
Oui, après avoir raté une place en Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe veut se racheter en Coupe de la Confédération et pour cela, il faut bien négocier la réception à Lubumbashi du Royal AM d'Afrique du Sud. À suivre aussi le duel ivoirien entre l'ASEC et le SC Gagnois. Les Mimosas accueillent la première rencontre. Les deux clubs nigériens du Plateau United et Rovers United reçoivent respectivement les Libyens d'Al Akhdar et Al Nasr. Choc aussi à Johannesburg avec Cape Town City qui sera face à l'USM Alger. Le champion du Togo, ASCO, joue contre le club sportif sfaxien de Tunisie, tandis que le club africain se rend à Dar es Salaam pour affronter Young Africa de Tanzanie. Mission compliquée pour l'AS Negelec du Niger face à Pyramide d'Égypte, tandis que le champion en titre RS Berkane se rend chez l'US Monastir de Tunisie.
Paul Pogba déclare forfait pour le Mondial.
Le milieu de l'équipe de France blessé a déclaré forfait pour le Mondial 2022 au Qatar. C'est ce qu'a annoncé son avocate et agent Raphaël Pimenta dans un communiqué. Opéré d'un ménisque début septembre, Paul Pogba avait repris l'entraînement collectif avec la Juventus Turin ces derniers jours. Mais un nouveau pépin physique dimanche a retardé sa guérison, rendant impossible une sélection dans la liste annoncée pour le 9 novembre par le sélectionneur Didier Deschamps. À 29 ans, Pogba n'a plus disputé le moindre match officiel depuis le mois d'avril. C'est un nouveau coup dur pour les Bleus, déjà privés de N'Golo Kanté.
Je signale, Yacouba, que aujourd'hui débute la dernière journée de la Ligue des Champions, phase de groupe, qui prend fin demain. Ici en NBA, les Nets respirent.
Porté par Kevin Durant, devenu le 19e meilleur marqueur de l'histoire, Brooklyn s'est offert un bol d'air en battant Indiana 116 à 109. Les Nets restaient sur quatre revers une grosse polémique née de la promotion d'un film à caractère antisémite par Kyrie Irving sur ses réseaux sociaux. Kevin Durant a inscrit 34 points, de quoi doubler Vince Carter au 19e rang des meilleurs marqueurs de l'histoire de la Ligue avec 25 752 points. Leader à l'Est, les Bucks poursuivent leur sans-faute avec un sixième succès en autant de matchs difficilement remportés contre Détroit 110-108. Les Sixers ont battu les Wizards 118-111.
Justement, les Sixers ont été sanctionnés par la NBA.
Les Philadelphia Sixers seront privés des deuxièmes tours de draft en 2023 et 2024. Ils sont ainsi sanctionnés pour avoir enfreint le règlement du marché des transferts en contactant deux recrues, PJ Tucker et Daniel House Jr. Avant la date autorisée, les Sixers avaient annoncé les arrivées de ces deux joueurs respectivement en provenance de Miami et de Utah.
Et c'est tout pour les sports. Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manilakidza, place au dossier du jour. En RDC, l'offensive du M23 dans l'Est provoque des mouvements de population qui tentent de fuir les zones sous contrôle des rebelles. La MONUSCO annonce avoir exfiltré par hélicoptère des journalistes de Rutshuru vers Goma. Pour le journaliste Charlie Sebusha Renzaho, les activités reprennent progressivement à Rutshuru, tombé samedi sous le contrôle du M23. Il avait fui Bunagana, où il dirigeait notre station partenaire, la voie de Mikeno. Abdourahman Dia a joint à Rutshuru Charlie Sebusha Renzaho.
La situation est impeccable par rapport aux trois des quatre premiers jours, derniers jours. Actuellement, les populations, celles qui étaient parties un peu loin du territoire, sont en train de regagner déjà les milieux, puisque bon, une part de la population a déjà compris que bon, ils ont déjà le 23 déjà conquis le milieu, et même si la vue n'est pas comme d'habitude, mais quand même, il y a certaines activités qui ont déjà repris, comme le vendeur de kiosques, dans des petites kiosques, dans boutiques, et dans les marchés. En fait, les gens sont encore là, ils sont en train de relancer petit à petit, les gens sont en train d'y aller. La plupart des populations s'étaient déplacées sous le coup de feu, donc le 29.
Parlez-nous un peu de ces rebelles du M23. Comment est-ce qu'ils se comportent dans la ville? Est-ce qu'ils sont visibles? Parlez-nous un peu de ce que vous voyez.
Depuis le 29 déjà, donc lors de la prise de Rutshuru, ils étaient tellement visibles. Ils étaient venus en masse, mais actuellement, on le voit juste dans les artères principales du territoire, donc dans les longues routes principales vers le camp militaire Pena. Dans les quartiers, non, dans les quartiers, il n'y en a pas. Donc là, il n'y a pas vraiment de militaires assez de l'EMA du 23. Il y a quelques-uns qui ont la patrouille vers 18h, 19h.
Et l'armée congolaise, est-ce qu'on sait où est-ce qu'elle se situe, l'armée congolaise?
Alors, le FDC sont déjà dans la partie Ishasha. Donc, dans la deuxième partie de Nguenda, dans la route menant vers... Il y a deux routes des artères en provenance de la cité de Kyo. Il y a une artère qui va vers le Grand Nord et une autre qui va vers la frontière de Ishasha. Alors, le M23, c'est limite au niveau de Nguenda. Donc, c'est après Nguenda qu'il y a le FARDC.
Les FARDC ne sont pas visibles dans la zone où vous êtes alors?
Dans la zone où je suis, c'est carrément sous contrôle du M23.
Alors, vous avez quitté Bunagana. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette expérience?
Il y a eu beaucoup de coups de balle. Donc, les gens sont partis vers l'Ouganda. Donc, Bunagana s'est vidé, en bref. Ce n'est qu'après la prise de la cité de Bunagana, une semaine, deux semaines plus tard, qu'une partie de la population qui s'est réfugiée vers les camps de transit s'était résolue à rentrer à Bunagana.
C'était Charlie Sebusha Renzaho, responsable de la radio La Voix de Mikeno à Bunagana. Il était joint à Rutshuru.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Après avoir remporté le prix Bayeux en France du meilleur correspondant de guerre pour la catégorie presse écrite, la journaliste burkinabé Maria Moedraogo a décroché dans son pays le grand prix Marie-Soleil Frère de la meilleure journaliste ainsi que celui de la catégorie presse écrite de cette récompense décernée par le Centre national de presse Norbert Zongo. Cette fois-ci, pour un article sur les femmes violées en zone contrôlée par les djihadistes armés au Burkina Faso, Nathalie Barge l'a jointe à Ouagadougou.
L'article, c'était victime de viols, de terrorisme et de grossesses et de bébés lourds à porter. Il fallait qu'on s'éloigne de leur site ou de leur localité pour éviter les regards des autres, des proches ou des connaissances. Et la difficulté est que par moment, bon, il y avait des silences qui en disent long sur ce qu'elles ont vécu. Et souvent, c'est des entretiens entrecoupés de larmes. C'était des moments vraiment pleins d'émotions et vraiment inoubliables.
Vous mettez en lumière aussi un problème assez tabou finalement, c'est le fait que ces femmes et ces filles, hein, celles qui tombent enceintes, ne souhaitent pas avoir ce bébé. Et il n'est pas facile pour elles de le dire.
Naturellement, c'est difficile d'abord de dire que j'ai été violée par un terroriste et ensuite de dire que je suis enceinte d'un terroriste. Donc c'est un drame silencieux parce que c'est un sujet tabou, sensible. Voilà pourquoi beaucoup veulent se débarrasser de cette grossesse-là.
Que peut-on faire pour que ce genre de situation, malgré la violence armée, pour que ces femmes ne soient plus victimes de cette même manière-là?
Pour ce qui est de la protection, c'est un peu difficile dans les zones d'accueil parce que ces jeunes sont déjà trop infectés par ces individus armés-là. Donc, c'est difficile de mener des actions sur ces terrains-là. Pour éviter tout cela, il faut arriver à mettre fin à ce terrorisme-là.
Il y a un autre mal aussi qui ressort dans votre travail. C'est le regard de la société. Vous venez de le dire, c'est un sujet tabou. Mais ces femmes-là sont des victimes. Alors que faire dans la société aussi pour que ces femmes-là puissent être vues à visage découvert et que l'on puisse vraiment les assister et non pas les stigmatiser?
C'est peut-être mettre l'accent sur la société, nos communautés et surtout les hommes, passer par les leaders religieux et coutumiers pour que ces gens-là comprennent que ce sont les conséquences des guerres, des conflits. Quand il y a des guerres, il y a des exactions et les viols font partie de ces exactions-là. Donc c'est peut-être d'abord vraiment passer par ces leaders-là et les amener à toucher le maximum de population, en les acceptant, en les accompagnant pour qu'elles puissent se retrouver, pour qu'elles puissent se reconstruire et s'intégrer dans leur propre société.
Mariam Ouedraogo, journaliste burkinabé du journal Sidoya.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Lors de l'ouverture de la 8e édition du Forum international de Dakar sur la sécurité en Afrique, Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, a assuré que l'Afrique n'est pas contre l'Ukraine, pays agressé. Mais il a expliqué le refus de nombreux pays africains de prendre parti dans la crise comme une réaction à l'indifférence internationale face aux agressions visant le continent. Pour décortiquer le propos du numéro 1 sénégalais, John Lindon s'est entretenu avec Antoine Glaser, écrivain, auteur de plusieurs livres sur l'Afrique et journaliste et fondateur de La Lettre du Continent.
L'Afrique n'a pas la place qu'elle devrait avoir dans le concert des nations. On voit que depuis quelques années, et en plus ça s'est un peu accéléré avec la guerre en Ukraine, on voit bien que l'Afrique est extrêmement sollicitée. L'Afrique était un peu en marge du concert des nations, mais on voit que l'Afrique est de plus en plus sollicitée, non seulement par l'ensemble des grandes puissances, et c'est vrai qu'on a l'impression que la guerre de la Russie en Ukraine a accéléré cette demande d'Afrique. L'intérêt pour l'Afrique est au-delà même de ses matières premières. Il y a un véritable intérêt maintenant, un engouement pour l'Afrique, pas simplement pour ces matières premières, mais aussi sur le plan de la diplomatie mondiale.
Quand on parle Macron, quand on dit Macron, on dit France, et vous avez évoqué cela tout à l'heure, il y a aussi donc la France-Afrique. Est-ce qu'elle existe toujours aujourd'hui ou alors c'est le mode opératoire qui a changé et s'agissant toujours de la France, comment vous expliquez ce sentiment anti-français qu'on observe ces derniers temps sur le continent, notamment dans les pays francophones?
Alors c'est ce que j'appelle une sorte d'anachronisme historique. Ça veut dire que la France, moi qui ai connu cette France-Afrique des années des indépendances de 1960 jusqu'à la chute du mur de Berlin dans les années 90-91, c'est vrai que la France n'a pas vu l'Afrique finalement se mondialiser, a continué à se croire chez elle en Afrique. Mais comme elle n'a pas soldé cette période historique et que Emmanuel Macron, jeune président, a voulu tirer l'ardoise magique sur cette période, il est arrivé au pouvoir en disant aux jeunes étudiants burkinabés au cours de son premier voyage en 2017, il leur a dit oublions cette France-Afrique, oublions cette période historique. Alors eux, ils avaient envie d'en parler, ils avaient envie de parler de cette histoire. Emmanuel Macron a été rattrapé par la réelle politique, avec la mort en particulier du général Idriss Déby au Tchad, et Emmanuel Macron s'est trouvé en train d'adouber son fils Mahamat Déby, assis au premier rang, donc la France-Afrique un peu à l'ancienne, plus les coups d'État de ce qu'il y a eu en Afrique. Et c'est vrai que maintenant, il y a une nouvelle période au cours de son deuxième mandat, maintenant c'est la politique du deuxième rideau. C'est-à-dire la France ne veut plus apparaître, on n'a pas entendu Emmanuel Macron quand il y a eu les coups d'État, en particulier le double coup d'État au Burkina Faso, et maintenant il cherche un peu des alliés africains qui vont parler à sa place, d'où ce voyage au Cameroun, au Bénin et à Bissau.
C'était Antoine Glaser, écrivain, auteur de plusieurs livres sur l'Afrique, journaliste fondateur de la Lettre du Continent. Ailleurs, ici aux États-Unis, les électeurs américains devront prendre en compte plusieurs sujets importants lorsqu'ils se rendront aux urnes le 8 novembre prochain, de l'inflation au droit à l'avortement, passant par la sécurité des frontières et la criminalité. Les préoccupations concernant l'orientation du pays inciteront les électeurs à maintenir les démocrates au pouvoir ou à donner aux républicains une chance de contrôler le Sénat et la Chambre des représentants. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, nous en dit plus d'Ilidico pour le récit.
Les démocrates qui cherchent à conserver leur majorité au Congrès lors des élections de mi-mandat cette année ont rallié leurs électeurs en promettant de protéger le droit à l'avortement.
Si vous vous souciez du droit de choisir, alors vous devez voter.
Les électeurs ne participent pas aux élections de mi-mandat en aussi grand nombre qu'aux élections générales. Mais la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin d'annuler le droit fédéral à l'avortement, vieux de 49 ans, a attiré l'attention sur cette question dans les courses clés du Congrès. Dans l'État d'Ohio, dans le Midwest, les électeurs comme Lisa Sobaski disent que cela les a amenés à soutenir Tim Ryan, candidat démocrate au Sénat.
Je crois que Tim Ryan défendra les femmes pour qu'elles aient la possibilité de choisir leurs droits reproductifs.
Les femmes et les indépendants sont plus nombreux sur les listes électorales depuis la décision de la Cour suprême. Mais les analystes ne savent pas encore si cela suffira pour les démocrates. Amy Dacey enseigne à l'Université américaine de Washington.
Ce que nous avons vu au cours de l'été, c'est l'engagement. Nous avons vu une augmentation des inscriptions. Maintenant, la question est celle que vous devez poser aux électeurs. Est-ce le sujet principal sur lequel ils votent? Je pense que le défi est lié à ces questions, comme l'économie.
Alors que l'économie américaine se remet encore de la pandémie de Covid, les républicains affirment que les démocrates sont responsables des prix élevés de l'essence et de l'inflation croissante. De nombreux électeurs, en particulier dans les zones rurales comme le Wyoming, sont de cet avis. Kelly Krakow fait ce rappel.
L'inflation est d'environ 8%. Le coût des maisons, des réparations augmente d'environ 25%. Donc vous allez voir une augmentation d'environ 30%. C'est difficile pour les gens parce que lorsque vous avez une augmentation de 30% des coûts, les prix augmentent d'autant. C'est donc un frein et cela va peser lourdement sur le porte-monnaie des gens.
79% des électeurs américains ont déclaré au Pew Research Center que l'économie serait un facteur très important dans leur décision de vote. L'immigration et le contrôle des armes à feu figurent également.
C'était le récit de Diludico. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la réalisation de cette édition. Lionel Lounanegaïma a assuré la mise en onde. Merci également à l'équipe de rédaction. À la présentation, Eric Maniakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24 sur votre site voafrique.com. Sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée. À l'écoute de nos programmes.
VOA Afrique, les infos à Washington.